la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
J'avais 12 ans la première fois que j'ai marché sur l'eau. L'homme aux habits noirs m'avait appris à le faire et je ne prétendrais pas avoir pigé ce truc du jour au lendemain. Quand maître Yehudi m'avait découvert, petit orphelin mendiant dans les rues de Saint-Louis, je n'avais que 9 ans. Et avant de me laisser m'exhiber en public, il avait travaillé avec moi sans relâche pendant 3 ans. C'était en 1927, l'année de Babe Ruth et de Charles Lindbergh, l'année même où la nuit a commencé à envahir le monde pour toujours. J'ai continué jusqu'à la veille de la grande crise, et ce que j'ai accompli est plus grand que tout ce dont auraient pu rêver ces deux cracks. J'ai fait ce qu'aucun Américain n'avait fait avant moi, ce que personne n'a fait depuis. Maître Yehudi m'avait choisi parce que j'étais très petit, très sale, tout à fait abject. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal », m'avait-il dit. « Tu n'es qu'un bout de néant humain ». Telle fut la première phrase qu'il m'adressa. Et bien que 68 années se soient écoulées depuis ce soir-là, il me semble entendre encore ces mots dans la bouche du maître. « Tu ne vaux pas mieux qu'un animal. » Si tu restes où tu es, tu seras mort avant la fin de l'hiver. Si tu viens avec moi, je t'apprendrai à voler. « Personne ne peut voler, monsieur, » répliquai-je. « Il n'y a que les oiseaux qui volent, et je ne suis pas un oiseau, c'est sûr. » « Tu ne sais rien, » fit maître Yehudi. « Tu ne sais rien parce que tu n'es rien. » Si je ne t'ai pas appris à voler pour ton 13e anniversaire, tu pourras me couper la tête à la hache. Je te mettrai ça par écrit si tu veux. Si je manque à ma promesse, mon sort sera entre tes mains. C'était un samedi soir, au début de novembre, et nous nous trouvions devant le Paradise Café, un bar rupin du centre-ville avec orchestre de jazz nègre et vendeuse de cigarettes en robe transparente. J'avais l'habitude de traîner là en fin de semaine pour taper un peu les Milord, faire leurs commissions et leur trouver des taxis. Je pris d'abord Maître Yehudi pour un ivrogne de plus, un riche alcoolo titubant dans la nuit en smock noir et chapeau buse. Il avait un accent étrange et j'en déduisis qu'il n'était pas de la ville, mais sans chercher plus loin. Les ivrognes disent des bêtises et cette histoire d'apprendre à voler n'était pas plus bête qu'une autre. « Montez pas trop haut, dis-je. « Pourriez-vous casser le cou à la descente ?»« Nous parlerons technique plus tard, » répondit-il. « Ce n'est pas un talent facile à acquérir, mais si tu es attentif et si tu m'obéis, nous finirons tous deux millionnaires. »« Vous êtes déjà millionnaire, » protestai-je. « Pourquoi vous avez besoin de moi ?»« Parce que, misérable petite brute, je n'ai pas 2 sous en poche. Je te fais peut-être l'effet d'un baron de la finance, mais ce n'est que parce que tu as de la sciure en guise de cervelle. Écoute-moi bien. » Je t'offre la chance de ta vie, et cette chance, tu ne l'auras pas 2 fois. J'ai une place réservée dans le Bluebird Special à 6h30, et si tu ne hisses pas ta carcasse dans ce train, tu ne me reverras jamais. Vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi vous avez besoin de moi, dis-je. Parce que tu es la réponse à mes prières, fiston. C'est pour ça que je te veux, parce que tu as le don. Le don ? J'ai pas de don, moi. Et si j'en avais, qu'est-ce que vous en sauriez, vous, monsieur le bien sapé ? Vous avez commencé à me parler il y a juste 1 minute. Tu te trompes à nouveau, fit maître Yehudi. Il y a 1 semaine que je t'observe. Et si tu crois que ton oncle et ta tante regretteraient de te voir partir, tu ne sais pas avec qui tu as vécu ces 4 dernières années. Mon oncle et ma tante, répétai-je, comprenant soudain que ce bonhomme n'était pas un ivrogne du samedi soir. Il était quelque chose de bien pis. Un de ces types chargés de ramasser les enfants qui font l'école buissonnière, ou un flic. Et aussi sûr que je me trouvais là, je baignais dans la merde jusqu'aux genoux. Ton oncle Slim est un spécimen, poursuivit le maître en prenant son temps puisqu'il me voyait attentif. Je n'aurais jamais cru qu'un citoyen américain pouvait être aussi bête. Non seulement il sent mauvais, en plus il est méchant et laid. Pas étonnant que tu sois devenu un si affreux petit rat d'égout. Nous avons eu une longue conversation ce matin, ton oncle et moi, et il est d'accord de te laisser partir sans qu'un sou change de main. « Rends-toi compte, mon garçon, je n'ai même pas dû payer pour t'avoir. » Et cette truie pâteuse qu'il appelle sa femme est restée assise sans un mot pour te défendre. Si ces 2-là sont toute la famille que tu peux t'offrir, tu as de la chance d'en être débarrassé. C'est à toi de décider. Cependant, même si tu repousses mon offre, Il vaudrait sans doute mieux ne pas retourner chez eux. Ils seraient plutôt déçus de te revoir, je peux te l'affirmer. À peu près assommé de chagrin, si tu vois ce que je veux dire. Je n'étais peut-être qu'un animal, mais l'animal le plus vil a sa sensibilité. Et quand le maître masséna ce discours, cela me fit l'effet d'un coup de poing. Oncle Slim et tante Peg n'étaient pas une affaire, certes. C'était pourtant chez eux que je vivais, et je me sentis pétrifié d'apprendre qu'ils ne voulaient plus de moi. Je n'avais que 9 ans, après tout. J'avais beau être dur pour mon âge, je ne l'étais pas à moitié autant que je voulais le paraître, et, sans le maître qui me tenait à ce moment sous le feu de ses yeux sombres, je me serais sans doute mis à brailler en pleine rue. Quand je repense aujourd'hui à ce soir-là, je n'ai toujours pas la certitude qu'il me disait la vérité. Peut-être avait-il parlé à mon oncle et à ma tante, peut-être aussi avait-il tout inventé. Je crois qu'il avait dû les voir, la description collait trop bien. Mais, connaissant mon oncle Slim, il me paraît quasi impossible qu'il ait accepté de me laisser partir sans monnayer son accord. Je ne prétends pas que Maître Yehudi l'a truandé, mais, compte tenu de ce qui s'est passé plus tard, on ne peut nier que ce salaud de Slim s'est senti floué, que la justice se trouva ou non de son côté. Je ne vais pas perdre mon temps à m'interroger là-dessus. Ce qui compte, c'est que j'ai cru ce que le maître me disait et finalement, c'est la seule chose qui mérite d'être racontée. Il m'avait convaincu que je ne pouvais pas rentrer chez moi et du moment que j'acceptais ça, je me foutais pas mal de mon sort. Ce devait être ainsi qu'il voulait que je me sente, tout démantibulé, complètement perdu. Si on ne voit pas de raison de continuer à vivre, on a guère à se soucier de ce qui risque d'arriver. On se dit qu'on aimerait être mort, et du coup, on s'aperçoit qu'on est prêt à n'importe quoi, même à une chose aussi cinglée que de disparaître dans la nuit avec un inconnu. « D'accord, monsieur, » déclarai-je, en baissant ma voix de 2 octaves et en le fixant de mon air le plus patibulaire. « Marché conclu. » « Mais si vous ne faites pas pour moi ce que vous avez dit, vous pouvez dire adieu à votre tête. Je suis peut-être petit, mais je ne laisse jamais personne oublier ses promesses. » Il faisait encore nuit quand nous sommes montés à bord du train. Nous sommes partis vers l'ouest, dans la lumière naissante, et avons traversé l'état du Missouri, tandis que l'aube pâle de novembre s'efforçait de percer les nuages. Je n'avais pas quitté Saint-Louis depuis le jour où on avait enterré ma mère, et le monde que je découvrais ce matin-là me parut triste, gris et désolé, avec de tous côtés d'interminables étendues de tiges de maïs flétries. Le train entra en gare de Kansas City, peu après midi. Et durant toutes ces heures passées ensemble, je ne crois pas que Maître Yehudi m'ait adressé plus de 3 ou 4 paroles. Il avait dormi la plupart du temps, dodelinant de la tête, le chapeau sur les yeux, mais j'avais trop peur de faire autre chose que regarder par la fenêtre le paysage qui défilait devant moi, tout en essayant d'évaluer la panade où je m'étais fourré. Mes copains de Saint-Louis m'avaient mis en garde contre des personnages tels que Maître Yehudi, solitaire et sans attache, plein de noirs desseins, pervers en quête de jeunes garçons pour satisfaire leurs caprices. C'était assez dégoûtant de l'imaginer en train de me déshabiller et de me toucher là où je n'avais pas envie qu'on me touche. Mais ce n'était rien en comparaison de certaines des autres peurs qui se bousculaient sous mon crâne. J'avais entendu parler d'un garçon qui était parti avec un inconnu et dont on n'avait plus eu de nouvelles. Plus tard, l'homme avait reconnu avoir découpé l'enfant en petits morceaux et l'avoir fait cuire pour son dîner. Un autre gamin avait été enchaîné à un mur au fond d'une cave obscure sans rien à manger que du pain et de l'eau pendant 6 mois. Un autre avait été écorché jusqu'à l'os. J'avais tout le temps de réfléchir à ce que j'avais fait, et je me voyais promis moi aussi au même genre de traitement. Je m'étais laissé prendre aux griffes d'un monstre, et s'il était à moitié aussi sinistre qu'il en avait l'air, je risquais fort de ne jamais revoir le jour se lever. On est descendu du train et on a commencé à se frayer un chemin à travers la foule qui encombrait le quai. « J'ai faim, » dis-je en tirant sur la veste de Maître Yehudi. « Si vous ne me donnez pas à manger tout de suite, je vous dénonce au premier bourg que j'aperçois. »« Et la pomme que je t'ai donnée ?» demanda-t-il. « Je l'ai balancée par la fenêtre du train. »« Ah, on n'aime pas trop les pommes ?» Et le sandwich au jambon, sans parler de la cuisse de poulet rôti et du sachet de beignet. « Je les ai balancées. Vous pensez tout de même pas que je vais manger la bouffe que vous me donnez ?» « Et pourquoi pas, bonhomme? Si tu ne manges pas, tu vas te ratatiner et mourir. Tout le monde sait cela. Au moins, comme ça, on meurt lentement. Si on mord dans un truc empoisonné, on claque sur le cou. » Pour la première fois depuis notre rencontre, Maître Yehudi eut un large sourire. Si je ne me trompe, je crois même qu'il alla jusqu'à rire. Tu veux dire que tu n'as pas confiance en moi, c'est ça ?
Tout juste, j'ai pas confiance. Autant parier sur une mule crevée.
Rassure-toi, Morveux, dit le maître en me tapotant l'épaule d'un geste affectueux. Tu oublies que tu es mon ticket repas ? Je ne toucherai pas à un seul de tes cheveux. En ce qui me concernait, ce n'était là que des mots. Et je n'étais pas bête au point d'avaler des sucreries de ce genre. Mais alors, maître Yehudi enfonça la main dans la poche, en sortit un billet $1 craquant neuf et me le claqua dans la paume. « Tu vois ce restaurant là-bas ? » me demanda-t-il en désignant un comptoir au centre de la gare. « Vas-y, et commande-toi le plus gros repas que tu pourras t'enfourner dans l'estomac. Je t'attendrai ici. Et vous ? Vous mangez pas ? Vous êtes contre ?»«
Ne te soucie pas de moi, » répliqua maître Yehudi. « Mon estomac peut se débrouiller. » Puis, au moment où je me détournais, il ajouta « Un conseil, Freluquet. Si tu as l'intention de t'enfuir, c'est le moment ou jamais. Et ne t'en fais pas pour le dollar. Tu peux le garder pour ta peine. »
J'entrais seul dans le restaurant, un peu apaisé par ses dernières paroles. S'il avait eu de mauvaises intentions, pourquoi m'aurait-il offert une possibilité de filer ? Je m'installai au comptoir et commandai le plat du jour et une bouteille de sarsaparilla. En un clin d'œil, le garçon posa devant moi une montagne de bœuf salé au chou. C'était le repas le plus copieux que j'avais jamais vu. Un repas aussi énorme que le Sportsman's Park à Saint-Louis. Et je le dévorai jusqu'à la dernière bouchée, accompagné de deux tranches de pain et d'une seconde bouteille de sarsaparilla. Rien ne peut se comparer à la sensation de bien-être qui m'envahit devant ce comptoir sordide. Le ventre plein, je me sentis invincible. Comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. L'instant suprême fut celui où je sortis de ma poche le billet $1 afin de régler l'addition. Tout cela faisait juste 45 cents. Et même après que j'eus ajouté 5 cents comme pourboire au garçon, il me restait un $0.50 de monnaie. Aujourd'hui, ça paraît pas grand-chose, mais à l'époque, pour moi, 50 cents représentait une fortune. « Voilà ma chance de me tirer, » me dis-je en jetant un regard autour de moi, tout en descendant de mon tabouret. Je pourrais filer par la porte de derrière, et l'homme en noir ne saurait jamais ce qui s'est passé. Mais je ne filais pas, et de ce choix découle toute l'histoire de ma vie. Je retournai à l'endroit où le maître m'attendait, parce qu'il avait promis de faire de moi un millionnaire. Sur la foi de ces 50 cents, je pensais que ça valait sans doute la peine de voir si cette fanfaronnade était fondée. On a pris un autre train, après cela, puis un troisième, en fin de voyage, qui nous a amenés à 7h du soir dans le bourg de Cibola. Maître Yehudi, si taciturne tout le matin, avait parlé presque sans arrêt pendant le reste de la journée. J'apprenais déjà à ne pas présumer de ce qu'il allait faire ou ne pas faire. Au moment précis où vous pensiez l'avoir deviné, il changeait de direction et se comportait de façon exactement opposée à votre attente. « Tu peux m'appeler Maître Yehudi », m'annonça-t-il, m'informant pour la première fois de son nom. « Si tu veux, tu peux m'appeler simplement Maître. Mais jamais, en aucun cas, tu ne dois m'appeler Yehudi, c'est clair ?»«
C'est votre vrai nom ?» demandai-je. « Ou vous vous êtes choisi ce blason vous-même ?»
Tu n'as pas besoin de connaître mon vrai nom. Maître Yehudi suffira.
Eh bien moi c'est Walter. Walter Claiborne. Rowley. Mais vous pouvez m'appeler Walt.
Je t'appellerai comme je voudrais. Si j'ai envie de t'appeler Vert, je t'appellerai Vert. Si j'ai envie de t'appeler Porc, je t'appellerai Porc. Compris ?
Merde, monsieur, je comprends rien à ce que vous racontez.
Et je ne tolérerai ni mensonge, ni duplicité. Pas d'excuses, pas de récrimination, pas de discussion. Une fois que tu auras pris le pli, tu seras le plus heureux des gamins.
Ouais, et si un cul-de-jatte avait des jambes, il pourrait pisser debout.
Je connais ton histoire, fiston. Inutile de m'inventer des fariboles. Je sais que ton père a été gazé en Belgique en 17. Et j'en sais aussi sur ta mère, qui se faisait culbuter à un sous la passe dans les quartiers est de Saint-Louis. Et je sais ce qui lui est arrivé voici 4 ans et demi quand ce flic dingue lui a fait exploser la tête d'un coup de revolver. Ne va pas croire que je n'ai pas pitié de toi, mon garçon. « Mais tu n'arriveras jamais à rien avec moi si tu as peur de la vérité. »«
Bon, bon, monsieur le bien culotté, puisque vous connaissez toutes les réponses, pourquoi vous gaspillez votre salive à me causer de trucs que vous savez déjà ?»«
Parce que tu ne crois toujours pas un mot de ce que je t'ai dit. Quand je te parle de voler, tu penses que c'est de la frime. Tu vas travailler dur, Walt, plus dur que tu ne l'as jamais fait, et tu auras presque tous les jours envie de me plaquer. Mais si tu t'accroches et si tu te fies à mes conseils, au bout de quelques années, tu pourras voler, je te le jure. tu seras capable de t'élever au-dessus du sol et de te mouvoir en l'air comme un oiseau. Je suis du Missouri, vous savez. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'état des fais donc voir. Eh bien, nous ne sommes plus dans le Missouri, mon petit. Nous sommes dans le Kansas. Et de toute ta vie, tu n'as connu d'endroit plus plat ni plus désolé. Quand Coronado et sa troupe sont passés par ici en 1540 à la recherche des cités de l'or, ils se sont si bien perdus qu'un homme sur deux est devenu fou. Il n'y a rien qui permette de se repérer. Pas de montagne, pas d'arbres, pas de bosses sur la route. C'est plat comme la mort par ici. Et quand tu y auras vécu quelque temps, tu comprendras qu'il n'y a nulle part où aller que vers le haut, que le ciel est ton seul ami. Il faisait noir quand le train entra en gare, et il me fut donc impossible de vérifier la description que m'avait faite le maître de mon nouveau pays. Pour autant que je pus en juger, rien ne distinguait Cibola de l'idée qu'on se fait d'un petit bled. Il y faisait un peu plus froid sans doute, et nettement plus sombre que dans les lieux auxquels j'étais habitué. Mais étant donné que je ne m'étais encore jamais trouvé dans un tel patelin, je n'avais aucune idée de ce que j'en attendais. Tout était nouveau pour moi. Les odeurs me semblaient étranges et je ne reconnaissais pas les étoiles dans le ciel. Si on m'avait annoncé que je venais de pénétrer au pays d'Oz, je pense que je n'en aurais pas été autrement surpris. Après avoir traversé le bâtiment de la gare, on est resté un moment debout sur le seuil à observer le bourg obscur. Il n'était que 7h du soir, mais tout paraissait fermé. Et à part quelques lampes allumées dans les maisons de l'autre côté de la place, on ne voyait aucun signe de vie. « Ne t'en fais pas, » fit Maître Yehudi. « Notre carrosse va arriver d'une minute à l'autre. » Il tendit la main et voulut prendre la mienne, mais je dégageai mon bras avant qu'il ait pu la saisir. « Bas les pattes, monsieur le maître, » dis-je. « Si vous croyez que je suis à vous, eh bien, des clous. » 9 secondes environ après avoir dit ces mots, je vis apparaître au bout de la rue un grand cheval gris tirant une charrette en planche. Ça paraissait sortir des aventures de Tom Mix, un western que j'avais vu l'été précédent au Picture Palace, mais on était en 1924, bon Dieu, et quand j'aperçus cet antique véhicule qui approchait en cahotant, je crus qu'il s'agissait d'une apparition. Pourtant, surprise, en le voyant arriver, Maître Yehudi fit un signe de la main, et ce vieux cheval gris s'immobilisa juste devant nous, au bord du trottoir, en soufflant par les narines des nuages de vapeur. Son conducteur était un personnage rond et trapu, enroulé dans des couvertures et coiffé d'un chapeau à large bord, et au premier abord, je n'aurais pu dire si c'était un homme, une femme ou un ours. « Bonsoir, Maman Sou, » dit le maître. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Pendant quelques secondes, la femme braqua sur moi des yeux froids et inexpressifs, et puis, tout à coup, elle m'adressa l'un des sourires les plus chaleureux et les plus amicaux qu'on m'ait jamais offert. 2 ou 3 dents, tout au plus, pointaient de ses gencives, et de l'éclat de ses yeux noirs, je conclus que c'était une gypsy. C'était Maman Sou, la reine des gypsies, et Maître Yehudi était son fils, le prince des ténèbres. Ils allaient m'emmener au château d'où l'on ne revient pas, et s'ils ne me mangeaient pas le soir même pour leur dîner, ils feraient de moi leur esclave, un eunuque servile à l'oreille percée d'un anneau, la tête entourée d'un mouchoir de soie. « Grimpe, bonhomme, » dit Maman Sou. Sa voix me parut si grave et si masculine que je serais mort de peur si je n'avais su qu'elle pouvait sourire. Tu verras des couvertures là derrière. Si tu as une idée de ce qui est bon pour toi, tu t'en couvriras. On a une longue route à faire dans le froid et faudrait pas que tu arrives avec les fesses gelées. Il s'appelle Walt, fit le maître en montant à côté d'elle. De la graine de galopin à la cervelle puante qui traînait dans le ruisseau. Si mon flair est bon, c'est lui que je cherchais depuis tant d'années. Puis se tournant vers moi, il ajouta brusquement « Voilà Maman Sou, gamin. Conduis-toi bien avec elle, et en échange, elle ne te fera que du bien. Contrarie-la, et tu regretteras d'être née. Elle a beau être grosse et édentée, elle est tout de même ce que tu auras de plus proche d'une mère. » Je ne sais pas combien de temps il nous fallut pour atteindre la maison. Elle se trouvait quelque part dans la campagne, à 16 ou 17 miles du bourg. Mais je n'appris cela que plus tard, car à peine enfoui sous les couvertures, dès que la charrette se mit en route, je m'endormis profondément. Quand j'ouvris les yeux, nous étions arrivés, et si le maître ne m'avait réveillé d'une gifle, j'aurais sans doute dormi jusqu'au matin. Il me précéda dans la maison tandis que Maman Sou dételait le canasson. Et la première pièce où nous entrâmes était la cuisine, un espace nu mal éclairé avec un poêle à bois dans un coin et une lampe au kérosène qui vacillait dans un autre. Un garçon noir d'une quinzaine d'années était assis à une table, plongé dans un livre. Il n'était pas brun comme la plupart des gens de couleur que j'avais rencontrés chez nous. Il était d'un noir d'encre, si noir qu'il semblait presque bleu. Un authentique Éthiopien, un négrillon sorti des jungles des plus ténébreuses de l'Afrique. Et mon cœur manqua s'arrêter de battre quand je l'aperçus. Il était frêle et osseux, avec des yeux protubérants et des lèvres énormes, et lorsqu'il se leva pour nous accueillir, je remarquai qu'il se tenait tout tordu et de travers, que son corps bossu et anguleux était celui d'un infirme. « Je te présente Ésope, » me dit le maître, « le meilleur gars qui fut jamais. Dis-lui bonjour et serre-lui la main, Walt. Il sera ton nouveau frère. »« Je serre pas la main d'un nègre, » protestai-je. « Vous êtes cinglé si vous imaginez que je ferais une chose pareille. » Maître Yehudi poussa un long et fort soupir. Cela ressemblait à une expression de chagrin plutôt que de dégoût, à un frisson monumental venu des profondeurs de l'âme. Et puis d'un geste extrêmement calme et décidé, il courba l'index de sa main droite, comme pour me faire signe d'approcher, l'immobilisa et plaça le bout de ce crochet juste sous mon menton, à l'endroit précis où la chair et l'os se rencontrent. Ensuite, il se mit à appuyer, et tout d'un coup, une douleur terrible envahit ma nuque et monta dans mon crâne. Jamais je n'avais eu aussi mal. Je voulus crier, mais mon gosier était bloqué, et je ne parvins à en sortir qu'un faible son nauséeux. Le maître continuait à enfoncer son doigt, et soudain, je sentis que mes pieds quittaient le sol. Je montais. Je m'élevais dans les airs tel une plume, et le maître paraissait accomplir cela sans le moindre effort, comme si je ne pesais pas plus lourd pour lui qu'une bête à bon Dieu. Il me souleva jusqu'à ce que mon visage se trouve au niveau du sien, et que je le regarde droit dans les yeux. « On ne parle pas comme ça ici, gamin, » dit-il. « Tous les hommes sont frères, et dans cette famille, tout le monde est traité avec respect. C'est la loi. Si elle ne te plaît pas, tu devras t'y faire. La loi est la loi. Et quiconque y contrevient sera transformé en limace et passera le restant de ses jours à ramper dans la boue. » C'était le tout premier chapitre de « Mister Vertigo ». Un livre de Paul Auster, traduit de l'américain par Christine Leboeuf, aux éditions Actes Sud, publié en 1994, le tout premier livre de Paul Auster que j'ai lu et qui m'est marqué durablement, profondément, cette histoire d'un gamin qui va apprendre à voler. Y parviendra-t-il ? Eh bien, vous avez quelques 400 pages pour le savoir si vous vous précipitez sur ce livre qui est, de mon point de vue, un des tout meilleurs de Paul Auster. J'en ai lu beaucoup de cet auteur américain qui vient de disparaître et c'était donc, pour cette chronique je lire, une manière de rendre un hommage à cet écrivain qui a été un de mes piliers dans une construction littéraire et culturelle et personnelle. Un autre pilier qui vient de disparaître encore plus tôt, Paul Auster est mort à 77 ans, eh bien c'est Steve Albini qui vient de mourir d'une crise cardiaque à 61 ans seulement. Ce grand musicien et ingénieur du son, dont il serait fastidieux de détailler ici tous les apports qu'il a pu amener à la musique indépendante, à l'underground et aussi à l'industrie par certains biais. Steve Albini donc vient de décéder alors même qu'un nouvel album de Shellac est attendu d'ici quelques jours. On écoute donc Shellac pour terminer cette chronique je lire qui devient une sorte de chronique nécrologique. The comrades, let's leave.
this place directly and go where the females congregate. Perhaps they'll let us fuck them.